Vous écoutez RTL.
RTL, 9h01.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et si le groupe. Et si le groupe Muse était le plus grand du moment. Le show que les rockers britanniques proposent actuellement dans la nouvelle salle de Bercy est absolument spectaculaire. Stephen Bellery les a applaudis hier soir. Son compte-rendu dans un instant. Notre cadeau du jour au 32-10, un roman plein d'humour, Terre rare de l'italien Sandro Veronesi. Ce sera le choix de Bernard Lehu. Après son combat pour la sauvegarde des loups, la pianiste Hélène Grimaud nous sensibilise au manque d'eau sur la planète. C'est le thème de son nouvel album Water, dans lequel nous plongerons en compagnie de Charlotte Latour. Au menu de nos express, préparé par Charlotte Arrigoni, Patrick Bruel, l'Eurovision 2016 et Clovis Cornillac. Enfin, à la télévision ce soir sur France 2, Tout le monde joue avec l'histoire, un divertissement co-animé par Nagui et Stéphane Bern. On va jouer en avant-première avec Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Musique donc pour commencer, le groupe de rock le plus populaire du moment est de passage dans la capitale. Muse s'est installé à Paris-Bercy depuis vendredi soir pour 6 concerts événements. Le trio britannique défend son album Drones, paru en juin dernier. Stephen Bellery, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez assisté hier soir au concert pour RTL.
Oui, jamais je n'ai trouvé Bercy si petit. Muse s'est approprié la salle comme jamais, une immense scène centrale, plus de 40 mètres de long d'un bout à l'autre. 21h10, le show débute. Un trop baroque, une dizaine de drones en forme de bulles translucides volent au-dessus de nos têtes. Il y en avait un à 2 mètres au-dessus de moi. Des ballons télécommandés qui habillent l'espace. Puis Matthew Bellamy bondit sur scène. Le charismatique chanteur et guitariste n'est pas bavard, à peine il lâchera un. Il enchaînera avec Dead Inside, extrait du dernier album de Muse, déjà vendu à 250 000 exemplaires. Le trio invite un claviériste sur certains titres et soudain, la scène centrale se met à tourner sur elle-même. Matthew Bellamy s'agenouille, shoot dans sa guitare, chante aux quatre coins de la salle grâce aux nombreux micros. Les drones reviennent, multicolores cette fois. 8 bandes de tissu tombent du plafond, des images y sont projetées, ambiance post-apocalyptique. Invitation à la révolte populaire, diminution des libertés individuelles. Muse affine son univers, mais sans donner de leçons.
Si j'ai bien compris, pour paraphraser leurs aînés les Rolling Stones, hein, it's only rock and roll avec Muse, Steven.
Ouais, Muse, c'est le rock point final, un son brut, puissant, électrique. Le groupe ne s'éparpille pas, va droit au but, c'est carré, mais pas trop. Le trio laisse respirer sa musique, c'est rare. Solo de plusieurs minutes, duo de guitare à deux extrémités de la salle, battle musical entre le bassiste et le batteur. Et surtout, Muse n'oublie pas ses tubes comme Starlight. Les patents Uprising. Les tableaux s'enchaînent parfois dans l'obscurité, souvent sans images, les lumières sont épatantes. Dominic Howard ne manque pas de fureur à la batterie, Christopher lâche sa basse pour un harmonica. Clin d'œil à Morricone, enfin oscarisé dimanche soir. Et Matthew Bellamy s'installe deux fois au piano, comme pour souligner que Muse fait du rock, oui, mais pas comme les autres. Pourquoi Muse est un phénomène? Réponse des fans à la sortie.
Je pense que c'est le côté symphonique mélangé avec le rock. C'est ce côté sophistiqué, mais également rock, en fait, qui fait vraiment sa différence.
Ah ouais, c'était exceptionnel. Surtout le visuel était magnifique.
Et puis en plus, en live, ça déchire.
Et il prenait aussi soin de bien occuper toute la salle, toutes les scènes. Donc ça, c'était assez sympa.
Plus on écoute, plus on se rend compte qu'il y a aussi de la profondeur, il y a des petites choses qu'on découvre au fur et à mesure. Et en live, c'est juste les meilleurs, finalement.
Muse quitte la scène sans rappel, comme à leur habitude. 2 heures de folie. Moi, je dis merci.
Dans ce cas-là, nous, on va vous dire merci beaucoup pour cet excellent moment passé avec Muse. Compte rendu signé Stephen Bellery.
Les Express RTT.
jusqu'à vendredi, nous disiez-vous. Hein. Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte.
Voilà, c'est un très bon démarrage pour le film The Revenant d'Alexandro González Iñárritu.
Depuis mercredi dernier, plus d'1 200 000 spectateurs ont vu le film en France avec Leonardo DiCaprio, un film qui dure 2h36, ce qui le prive d'une séance supplémentaire par rapport à la concurrence. On imagine aisément que l'effet Oscar devrait amplifier le phénomène.
Dans une semaine, le 8 mars, Patrick Bruel donnera le coup d'envoi hier dans l'Essonne d'une série de concerts autour de son album Très souvent, je pense à vous, c'est son hommage à Barbara.
Le chanteur vient tout juste de terminer les répétitions de ce spectacle qu'il veut intime et qui ne sera pas intégralement consacré au répertoire de Barbara. Il en dit plus au micro RTL de Laurent Marsic.
C'est vrai que les chansons de Barbara racontent mon parcours, racontent ma vie aussi, mais pas uniquement. Donc un spectacle où je me raconte, forcément j'y inclus des chansons personnelles que j'amène, je crois, assez subtilement pour pas sortir de l'univers. Ça va être un voyage un peu particulier et je reprends Raconte-moi, chanson que j'ai écrite pour ma maman puisque c'est elle qui m'a présenté Barbara. Je reprends Je fais semblant, je parle de tout mon parcours. Je reprends Qui a le droit parce qu'il y a tout un moment sur l'enfance. Voilà, et au milieu de ça, la plus belle histoire d'amour, Madame, c'est mourir pour mourir.
Oh mes printemps, mes soleils, oh mes folles années perdues.
Mon enfance de Barbara, repris par Patrick Bruel. Patrick en tournée jusqu'à la fin du mois de mai avec donc ses propres chansons. Oui, je l'appelle Patrick. Et ses reprises, il sera notamment les 14 mars, 28 mars et 9 mai au Théâtre Mogador à Paris, un lieu dans lequel Barbara s'était installée pendant 3 mois en 1990. Elle y avait enregistré un album en public.
Clovis Cornillac, bientôt réalisateur de fiction pour France 2.
Oui, en plus d'incarner le personnage central de la série Chef, le comédien va réaliser la moitié des épisodes de la deuxième saison, autrement dit 4 épisodes sur 8. Le tournage doit débuter dans les prochains jours. Rappelons que la première saison diffusée l'an dernier va attirer jusqu'à 4 313 000 téléspectateurs.
Un petit coup de tweet, cette fois c'est officiel. On sait qui représentera la France à l'Eurovision en mai prochain à Stockholm.
Oui, le compte Twitter Eurovision France a publié un message. C'est Amir qui a été choisi avec son titre « J'ai cherché ». Amir Haddad a été révélé par la version israélienne de La Nouvelle Star avant de terminer troisième de The Voice sur TF1. Il était notamment face à Kenji Girac. Il sortira un album fin avril dans lequel on trouvera notamment la chanson qui nous représentera. Interprété par Amir, qui représentera donc la France à l'Eurovision le 14 mai prochain à Stockholm. Ce titre a été retenu parmi une liste de 280 chansons. Rappelons que l'année dernière, nous avions fini 25e sur 27 avec Lisa Angel.
Isabelle ?
Oui, et alors c'est un très fort score pour The Voice, puisque le candidat de Chypre fait partie de l'équipe de Florent Pagny dans The Voice. Donc c'est une belle reconnaissance de l'émission.
Ben voilà, moi je dis maintenant merci Charlotte. C'était les Express de Laissez-vous tenter. Et retour, bien entendu, d'Isabelle Morini-Boss pour nos audiences télévisées d'hier soir lundi.
Eh bien écoutez, 100 000 personnes d'écart simplement entre la 1 et la 2. Camping Paradis en rassemble 5 600 000 hier et 22% du public sur la 1. Mais no offense sur la 2, 5 500 000, très fort score, et 21% du public quasiment sur France 2. En troisième position, c'est inaltérable, Top Chef. Pas, n'en gagne pas un, n'en perd pas un de téléspectateurs, c'est bien. Et alors, la 3 est un tout peu plus au-dessus de la moyenne de la case. Près de 2 millions de téléspectateurs pour La France ou les bombes alliées, c'était une rediffusion. Et côté TNT, bah c'est TMC qui est en tête, avec Robin des Bois, Prince des voleurs, 1 100 000 téléspectateurs. Et Samuel Etienne est exactement dans la moyenne de Julien Lepers maintenant, 1 600 000 téléspectateurs et un peu moins de 12% du public sur la 3 à 18h10.
Stabilisation donc, on se retrouve nous dans un instant avec Bernard Lehu pour parler littérature, littérature italienne, avec un auteur qu'il aime beaucoup, Sandro Veronesi, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants.
RTL Matin,
laissez-vous tenter,
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
9h12, laissez-vous tenter maintenant avec Bernard Lehu. Il y a 8 ans, l'auteur italien Sandro Veronesi connaissait un joli succès avec son roman Chaos Calme, adapté au cinéma avec Nanni Moretti. Il publie aujourd'hui une suite.
Oui, vous avez peut-être lu ou vu l'histoire de ce père Pietro Palladini, jeune veuf qui refuse de retourner au bureau et passe ses journées à attendre sa fille devant son école. Il reçoit ses collègues dans sa voiture et devient le confident des habitants du quartier.
Ciao, senti Pulce. Io ti aspetto qui.
Sì, papà.
Non mi muovo fino a che tu non esci.
Davvero?
Sì.
Voilà, ça c'était donc Nanni Moretti. Lecteur et spectateur avait été à la fois ému et amusé par ce personnage plein d'humanité et d'autodérision, magnifiquement interprété donc par ce bel acteur italien Nanni Moretti. 8 ans plus tard, Pietro Palladini, le héros de Sandro Veronesi, est donc de retour dans Terre rare, publié chez Grasset. Alors pourquoi une suite à Chaos calme? La réponse de l'auteur Sandro Veronesi.
C'est une vengeance que je prends contre Pietro Palladini, parce que le grand succès du Chaos calme, peut-être aidé par la personnalité de Nanni Moretti qui a joué le rôle dans les films, a fait que Pietro Palladini a été pris comme un bonhomme, un exemple de bon père. Et c'était pas du tout mon intention, parce qu'il n'était pas un bonhomme, comme un saint. Alors j'ai commencé à penser, je me prends une vengeance comme écrivain sur le personnage, parce qu'il ne mérite pas toute cette considération.
Alors Sandro Veronesi, en effet, Veronesi, il faut que je remette le N et le S
dans le bonheur.
Alors Sandro Veronesi, en effet, n'épargne vraiment pas son personnage.
Hein. Ah bien, du chaos calme, qui était un bel oxymore, hein, cette oui. association de deux mots de sens opposés, on passe au chaos mouvementé, joli pléonasme. L'auteur se défoule contre sa créature en 24 heures de folie. Il lui fait perdre tout ou presque sa maîtresse, sa fille en fugue, son portable, son permis retiré par la police, et surtout son honneur quand Pietro Palladini découvre que son associé à la tête d'un commerce d'automobiles trafique en réalité des voitures volé avec un gang de Roumains. L'associé s'est fait la malle avec la caisse. Il lui conseille d'en faire autant avant la casse-prison. Pietro Palladini n'a plus qu'un objectif, fuir ses emmerdes, sa vie, ses proches. Est-ce une tentation que connaît ou qu'a connu également Sandro Veronesi?
Non, pas du tout. Je suis le contraire. Mais c'est pour ça que j'ai bien volontiers imaginé le contraire, non? J'ai une phrase que je tiens écrite sur le mur de ma maison, en anglais, je ne sais pas pourquoi. Try to imagine the opposite.
Essaye d'imaginer le contraire.
Oui, et ça marche pour me donner les idées les plus enthousiasmantes. Et ça, c'est vraiment un exemple d'avoir imaginé le contraire de ma vie.
Et les catastrophes à la chaîne que traverse son personnage font de son livre Terre rare une comédie, voire une farce jubilatoire, où le tragique bascule toujours très vite dans le comique. Les moments d'anthologie se succèdent et on y apprend même la recette, Yves Calvi, la recette improbable de la tomate à la tomate.
Ah. Ça se sent formidable pour moi, hein, la tomate à la
et
tomate.
Donc elle existe.
Oui, oui, je l'ai inventée. Oui, c'est très très bon, mais il faut suivre la recette. La tomate ne doit même pas être posée à côté d'un frigidaire.
Ah ben non, elle arrive directement du jardin, cueillie en plein soleil, vous le dites bien, on salive. Et ben alors donc ça y est, vous l'avez créée, elle est reprise par des chefs.
Non, je ne sais pas, mais moi je l'ai fait et c'est très bon.
Bon, ben allez donc découvrir la recette de la tomate à la tomate.
Page 175.
Voilà, 175. C'est l'un des savoureux délires imaginés par Sandro Veronesi dans Terre rare. La suite, 8 ans après, de Chaos calme, et c'est publié chez Grasset.
Et nous vous faisons gagner le roman de Sandro Veronesi si vous répondez à la question de Bernard Lehu.
Quel acteur a joué au cinéma Pietro Palladini, le héros de Chaos calme, que l'on retrouve dans Terre rare, Roberto Benigni ou Nanni Moretti?
Réponse au 32-10. On passe donc directement à la télévision avec un gros plan ce soir, Isabelle Morini-Bosque. Sur Tout le monde joue avec l'histoire, c'est une spéciale présentée par Nagui et notre camarade Stéphane Bern.
Oui, 20h55, France 2, j'adore, 2h15 de direct, sur le même modèle que la spéciale QI et la spéciale mémoire assurée naguère par Michel Simès et Nagui. Nagui qui change de complice, pas de complicité, on devrait beaucoup rire avec les 6 invités répondant à des questions sur l'histoire, rien que l'histoire, toute l'histoire. Et évidemment, ça favorise les anecdotes, par exemple sur ce prince Philippe, le fils du roi Louis, tué par un cochon, d'où l'idée de la fleur de lys comme blason pour redorer une France à alors considéré comme ridiculisé. Et côté mort particulière, Stéphane Bern rappellera évidemment celle du président Félix Faure, décédé d'un transport avant tout au cerveau, pendant que sa maîtresse lui faisait une gâterie. Pas vrai, Stéphane Bern?
Oui. Se croyait César et il est mort Pompée. Nous sommes en période de vacances scolaires. On s'est dit, comment faire jouer un jeu toute génération confondue? On a cherché des questions qui peuvent intéresser tout le monde. C'est souvent de la logique. Moi, avec tout ce que je sais en histoire, il y a des questions, je n'ai pas l'esprit logique.
Vous en avez une en tête?
À votre avis, est-ce que Cléopâtre, elle est plus proche de la pyramide de Khéops ou du premier smartphone?
Alors, c'est quoi la réponse, Charlotte?
Du premier smartphone.
Oui.
Ben oui, parce qu'on se dit qu'il y a un piège, forcément, alors on y retourne.
Eh bien, elle est plus proche du premier smartphone.
Ah bon ?
Mais oui, que de la pyramide de Khéops. Donc au fond, c'est de la déduction. Pourquoi est-ce que le mois de juillet et le mois d'août ont tous les deux 31 jours ?
Alors, vous y voyez plus clair avec ces mois d'été ?
Non. À cause des années bissextiles ?
Non. Eh bien, voici la réponse.
Pensez à l'étymologie. Juillet, ça vient de Julius César. Et août, ça vient d'Auguste. Et oui, et donc il fallait respecter l'ego de l'un et de l'autre.
Et oui, voilà, Nagui et Stéphane Bern, nés le même jour, auront tous les deux dès 20h50 à la rentrée. Mais alors, quid de l'après-midi, Stéphane, parlons un peu média. Puisque la quotidienne, comment ça va bien, s'arrête bien, hein.
Franchement, on est au début mars, là. On nous parle de la rentrée de septembre. D'ici là, j'ai l'Eurovision, le village préféré des Français, 10 secrets d'histoire à tourner. Évidemment que ça s'arrête. Mais la chaîne travaille, non seulement de son côté, mais aussi avec moi, pour un nouveau magazine qualitatif d'accueil pour les après-midi de France 2. Je me sens pas menacé, bien au contraire. Après 7 ans d'existence, chaque magazine mérite d'être vu. On est là pour servir le public, là où la chaîne pense qu'on est le plus apte à faire des choses utiles. Et moi, j'avais envie, en même temps, de me recentrer. J'aime le divertissement, mais je peux pas tout faire. Je suis devenu en quelque sorte le monsieur histoire et patrimoine de France 2. Ça serait pas mal que l'après-midi aussi, je présente une émission qui ressemble à ce que je fais par ailleurs. Raconter un peu tout ce qui se passe en France de formidable, ça me touche aussi.
Voilà, donc qui va succéder à Stéphane Bern ? Stéphane Bern, sur lien entre les lignes.
Une excellente initiative. Alors, c'est quoi la polémique sur l'émission Garde à vous, là, proposée en face sur M6 ?
Ça s'appelle Créer du buzz pour nourrir les réseaux sociaux. Ah. Cette émission immergeant des jeunes d'aujourd'hui dans le service militaire d'autrefois est une réussite. Alors, pour le buzz, un magazine.fr affirme que l'armée désavoue totalement le programme. Ben, c'est faux, puisque l'état-major avait validé l'émission avant diffusion. L'armée de terre a dit, elle, l'utilité qu'elle y voyait depuis. M6 précise d'ailleurs au départ, au début de chaque émission, que certains éléments protocoles réservés aux militaires ne sont pas reproduits volontairement, évidemment, dans le programme. Et les treillis sont forcément modifiés, c'était l'une des accusations, parce qu'il est interdit, tout bêtement, d'utiliser les tenues exactes des militaires, quelle que soit la fiction et l'émission. Quant aux instructeurs, de vrais militaires, notamment l'ex-commando Marius, bah, il parle clair. Hein.
Ça reflète bien l'esprit et ce qu'on voulait faire ressortir. Mais la réserve, elle était claire, de toute façon. J'ai écrit le programme. Si je participais au programme, je voyais ensuite les rushs. Et si j'étais pas d'accord, ben, ça se faisait pas. Il n'y a eu aucun moment, quelqu'un qui nous a recadré sur le fait de la réalisation du programme. Il n'y a pas eu de scène refaite. Ce sont eux qui se sont adaptés à notre programme et à la manière de fonctionner. C'est pour ça que je le dis bien, ça reflète vraiment la réalité, ce qui s'est passé sur le terrain.
C'est vrai, une seule prise, c'était très intéressant.
C'est bon ça, c'est bon ça. Il est bon le bébé.
Oui, un bébé de 100 kilos et j'ai évidemment beaucoup aimé cette troisième. C'est incroyable comme ces garçons se virilisent au bon sens du terme au fur et à mesure que les jours passent et apprennent la cohésion et l'entraide.
C'est donc ce soir sur
M6. Moi j'aime beaucoup ce programme, j'avoue, je m'en cache pas.
Nous on vous aime beaucoup, vous, hein, vous savez.
Oh, bah, vous remercie, vous pouvez me signer un reçu.
Bah, non, je vous en prie. Dans un instant, nous serons avec Charlotte Latour, que nous aimons aussi beaucoup et qui est venue avec une petite camarade aux très jolis yeux bleus qui joue fort bien du piano. Ah, elle s'appelle Hélène Grimaud. Son dernier album s'appelle Water. À tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
9h23, merci d'écouter RTL. Charlotte Latour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venue aujourd'hui avec le nouvel album d'une des pianistes françaises les plus connues à l'étranger, Hélène Grimaud. L'album s'appelle Water.
Ces sorties d'albums créent toujours l'événement, hein, une fois de plus. C'est le cas avec une sélection de pièces de grands compositeurs qui ont tous été inspirés par l'eau. Alors musicalement, l'album balaye un spectre très large. Il y a 8 morceaux de Forêt à Janáček en passant par Liszt et ses Jeux d'eau à la Villa d'Este qu'on vient d'écouter. Et entre chacune de ces pièces, il y a une création d'un compositeur britannique et ami d'Hélène Grimaud, Nitin Sawhney. Et c'est ce qui fait de ce nouvel opus un véritable album concept. L'album a été enregistré pendant une exposition new-yorkaise, une installation visuelle et sonore avec une pièce inondée d'eau et une Grimaud qui jouait au milieu. Pour elle, il n'y a que le piano qui illustre aussi bien l'élément eau.
C'est vrai que le piano, avec sa dimension aussi verticale qu'horizontale, permet une utilisation plus riche certainement des textures et toutes ces textures multiples certainement donnent mieux sur notre instrument. Et c'est là où on se rend compte combien cette nature n'en finit pas d'être muse pour tous ses créateurs. Bon, l'eau, c'est un élément qui, non seulement nous est vital, puisque c'est quand même la frontière entre la vie et la mort dans toutes les langues, mais c'est aussi un symbole de renaissance, de régénération. Et donc, c'était ça qui m'a semblé intéressant d'explorer, cette idée de l'eau comme source d'inspiration, source de vie.
Quelques petits accents espagnols, Almeria d'Isaac Albéniz. Il a fallu 2 ans à cette exoise de 46 ans pour préparer cet album hypnotisant, un album qu'elle a souhaité le plus pur possible pour être en phase avec son sujet. La pochette de l'album la montre d'ailleurs en photo noir et blanc, avec un visage tout en pureté, au naturel.
Les photos du livret sont superbes aussi, hein,
oui,
très colorées.
Signées de son compagnon, le photographe allemand Matt Hennek. Photos de cours d'eau asséchés, par exemple, un petit peu à l'image de ce qu'a pu faire Yann Arthus Bertrand, oui, avec La Terre vue du ciel. Preuve que la pianiste tient à élargir le spectre pour que son album ne soit pas qu'un moment de musique, mais aussi une sorte d'appel.
Plus de 660 millions de personnes qui n'ont pas accès à de l'eau, et, enfin de l'eau propre en tout cas, mais parfois même pas d'eau du tout. Il y a un enfant qui meurt toutes les 90 secondes du manque d'eau ou de maladie due à de l'eau insalubre. Donc ça reste un problème d'ailleurs qui ne va que croître. Et donc c'est important aussi de parler de cet aspect.
Hélène Grimaud, qui a toujours été dans une quête spirituelle, semble se réaliser en invoquant les forces de la nature. Il y a 17 ans, parallèlement à sa carrière de soliste, elle crée un centre de sauvegarde des loups aux États-Unis. Aujourd'hui, elle utilise son art pour sensibiliser son public à la question du manque d'eau sur la planète. Pas étonnant qu'elle choisisse de terminer son album sur la cathédrale engloutie de Debussy, comme un cri d'alarme. Water d'Hélène Grimaud est paru chez Deutsche Grammophon.
Merci beaucoup pour cet agréable moment passé avec Hélène Grimaud et ses jeux d'eau, si je puis dire. Dans quelques instants, vous saurez si vous avez gagné le dernier livre de Sandro Veronesi, Terre rare, qui paraît aux éditions Grasset. Il fallait répondre à la question que vous posez Bernard Lehu.
J'ai eu un doute
parce que j'étais en train de dire la question que vous aviez posée. Je la répéterai dans un instant. Réponse au 32-10, hein, vous vous souvenez.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Ciao, senti dolce. Io ti aspetto qui.
Sì, papà.
Non mi muovo.
C'est agréable d'entendre parler italien, c'est la voix de Nanni Moretti. Et je vous rappelle que nous faisons gagner ce matin le roman de Sandro Veronesi qui vient de paraître aux éditions Grasset. Son titre est Terre rare. La question était quel acteur a joué au cinéma. Je vais vous donner la réponse. Pietro Palladini, le héros de Chaos Calme, que l'on retrouve donc dans Terre rare.
C'est... Voilà, donc c'était bien Nanni Moretti. Mais pour l'instant, il n'y a pas de projet d'adaptation au cinéma pour cette suite. Alors, c'est Terre rare.
C'est la question que j'allais vous poser. En tout cas, vous avez beaucoup aimé le roman. Merci à toute l'équipe d'être venue nous présenter ce menu très complet et très charmant. On va maintenant retrouver notre ami Julien Courbet.